Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord avec vous. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Et merci d'avoir choisi votre magazine interactif Parole aux auditeurs. L'association des consommateurs indépendants de Matadi dénonce ce qu'elle qualifie des morts programmées des installations portuaires publiques du Congo central, notamment le port de Matadi et de Boma. Si rien n'est fait pour sauver ces installations portuaires nationales, estime José Condé, secrétaire de l'association des consommateurs, ces ports publics vont disparaître pour laisser place définitivement aux nouveaux ports privés qui fleurissent et prospèrent à Matadi. Que faut-il faire pour sauver ces infrastructures portuaires internationales? 09 97 06 49 69, c'est notre numéro pour intervenir en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour le débat. Nico Kalambay est à la réalisation de ce magazine, mis en onde par André Mongou. Pierrot et Lamégie vous les présente sous la supervision de Martin Sebojangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Lamégie.
La situation des ports de Matadi et de Boma au centre de notre échange dans Parole aux auditeurs. L'association des consommateurs, comme on venait de le dire, estime que l'État a privilégié plus les opérateurs privés dans ces ports, ce qui cloue à la disparition les ports publics de Matadi et de Boma. Rappelons quand même que plusieurs tentatives pour le travaux d'innovation de ces ports ont été initiées, des fonds ont été alloué, mais aussi les projets de construction d'un port en eau profonde à Banana. Comment, qu'est-ce qui doit être fait pour relancer ces infrastructures portuaires internationales? Le débat est ouvert au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Mais comme je le disais tout à l'heure, plusieurs internautes sont en train de commenter ces sujets depuis qu'il a été publié en ce moment même sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Alain, qui nous écrit des Kinshasa, estime qu'il n'y a pas de mal. La florescence de ports privés, c'est au contraire à encourager. Le souci doit plutôt être celui de rendre compétitive la société publique et mettre au tard qui décrit souvent les opérateurs économiques. Maître Gervais, merci, vous êtes avec nous de Calémi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à Maître Adrien qui me suit en ce moment parti de Kinshasa.
On vous écoute, Maître Gervais.
Oui. En abordant et en constatant bien la question sur le sujet du jour, il est de coutume que tout le monde connaît que le secteur des transports congolais est basé sur quatre principaux sous-réseaux, entre autres des routes, voies ferrées, aéroports et des ports maritimes et fluviaux avec interface. Ces sous-réseaux sont exploités et maintenus par des acteurs publics et privés qui proposent des activités de transport commercial, formel ou informel. Cependant, le plus grande société de transport en RDC, de par leurs employés, la valeur de leurs actifs, ou tout simplement les chiffres d'affaires sont des entreprises publiques. En l'occurrence, les quatre lois signées par le président de la République le 7 juillet 2008, ainsi que les décrets numéro 09/11 et numéro 09/12 adoptés le 24 avril 2009 sur la transformation des plus grandes entreprises publiques en sociétés commerciales. Ce sont les principaux outils pour la réforme dans le secteur. en l'occurrence l'ONATRA, la RVM, la SNCC, la Régie des voies aériennes, la ligne aérienne congolaise, la Compagnie maritime du Congo, Chemin de fer et Zouélé, transformé en société commerciale. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien à se plaindre, même si le directeur lui dirait que nous savons bel et bien que les deux ports, en l'occurrence le port de Matadi, est le plus grand des trois ports de la RDC, que ceux de Boma et Banana ayant accès à la mer. C'est que la charge revient toujours au gouvernement congolais, parce que dans les secteurs de transport, l'objectif primaire du gouvernement était et demeure la consolidation de la réunification du pays à travers la renaissance des trois corridors de backbone pour le commerce multimodal et le transport de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, même le projet de transport multimodal cherche aussi à générer une croissance sous l'égide du secteur privé et dont le résultat prévu est l'amélioration de la connectivité du transport dans tout le pays ainsi que l'amélioration du climat d'investissement en RDC. C'est que nous demandons juste au directeur des associations de pouvoir fournir ses efforts et contacter le membre du gouvernement pour qu'il ait une solution par rapport à ça. C'est que ces ponts ne pourront jamais trouver l'air bon comme lui, donc prédit l'air vert.
Voilà, merci beaucoup Maître Gervais, mais là il se pose un problème de la survie de pouvoir des entreprises publiques, le projet transport multimodal, mais si dans ces projets il n'y a pas la consolidation des activités des sociétés publiques, vous l'avez dit, parce qu'il fallait d'ailleurs qu'on fasse une évaluation sur cette transformation pour les sociétés qui ont été transformées en sociétés commerciales, faudrait-il aujourd'hui faire l'évaluation sur les résultats, mais si les pauvres de Matadi et de Boma ne sont pas compétitifs, comment pourra-t-on réussir ces projets de transport, le projet multimodal? Ça va poser un certain nombre de problèmes aujourd'hui, parce que la SCPT ne peut pas survivre s'il n'y a pas ces deux ports. Alors pour vous estimez que c'est à l'État de pouvoir réfléchir combien d'argent faudrait-il aujourd'hui mettre pour sauver c'est pour. Merci beaucoup, Maître Gervais. Alain Évariste, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour, millions d'éditeurs qui nous écoutent à travers le monde à ce moment.
On vous écoute, Alain.
Oui, je pense que c'est un sujet très intéressant, puisque si nous allons voir comment vient ces ports génèrent au budget de l'État, vraiment c'est quelque chose encourageant. Et si aujourd'hui nous sommes en train de voir comment ces infrastructures commencent maintenant à que l'État laisse ces infrastructures de ne plus donner quelque chose de bon, c'est un problème. Mais je vais intervenir dans un point très important. Je sais que ce mouvement des consommateurs, que nous appelons un mouvement des consuméristes, c'est quelque chose d'encourageant, mais ce que nous regrettons, c'est que de voir le gouvernement laisser ces ports qui génèrent beaucoup de l'argent dans notre pays. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse vous permettre la concurrence. On ne peut pas priver un port privé un bateau qui arrive de l'Occident pour s'y accoster, puisqu'on doit quand même, on ne peut pas, l'État a libéralisé les secteurs de
Mais il faut quand même rappeler, Alain Évariste, qu'il y a, on a eu un débat, les débats plusieurs fois dans Parole aux auditeurs. On l'a eu du temps du premier, l'ancien premier ministre Augustin Matata-Mponyo, qui avait signé, je crois, avait pris un décret où on devrait céder en principe le patrimoine de on peut d'Elex-Sonatra, hein, au niveau du port de Matadi. Ça pouvait être en co-exploitation avec les secteurs privés. Les syndicalistes s'étaient opposés, estimant que si on pouvait céder cela, c'était complètement tuer l'entreprise. Mais quitte à savoir qu'est-ce qui doit être fait pour que ces ports qui ont aussi un passif important puissent être, les activités puissent être relancées, que ce soit à Boma, que ce soit à Matadi. Tout à l'heure, on va avoir le président de l'Union de déclarant douane de Boma, qui va nous donner aussi plus de précision. Merci beaucoup, Alain et Évariste. Franco Aboudou, lui, estime que vu les difficultés de fonctionnement de la société congolaise des transports et des ports, pour lui, on ne peut rien faire que attendre seulement un nouveau gouvernement qui puisse avoir un programme bien ficelé pour pouvoir sauver ses ports. Debsi Mubangé estime que c'est le gouvernement qui programme la mort de ses installations portuaires et pourtant elles sont sources génératrices de deniers publics. Le gouvernement de Bruno Tshibala ne va pas hésiter de sauver ses installations car il est obligé de fouiller partout sans rien négliger pour enflouer les caisses de l'État en vue de réaliser ses promesses comme les élections et l'amélioration du social de Congolais et ainsi que préserver l'emploi. On estime que le gouvernement pourra y arriver. Eiffel Marc Tchama pense que la question relève de la Société congolaise des transports et des ports qui doit savoir répondre aux exigences soulevées. Le principe de l'adaptabilité des services publics devrait être respecté par les dirigeants de cette entreprise publique ayant une personnalité juridique distincte à celle de l'État. Bref, il faudrait plutôt interpeller les autorités dirigeantes de cette société qui est devenue une société commerciale. Alors voilà, là il revient à la SCPT de pouvoir déterminer ses priorités, son plan d'action, de quelle manière elle voudra réhabiliter ses ports, le rendre compétitif pour permettre à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de les utiliser. Voilà, ça c'est le point de vue de Marc Tchama. Je rappelle encore que vous pouvez vous joindre à cet échange au 09 97 06 49 69 09 97 06 49 69 pour vos interventions en direct. Les débats tournent autour des difficultés des installations portuaires de Matadi et des Boma, celles que ça a été dénoncé plein par l'association des consommateurs indépendants de Matadi qui estime que si l'État ne fait rien, c'est une mort programmée de ces installations. Et pour cette association, ils estiment que ces installations vont laisser la place définitivement aux nouveaux ports privés qui fleurissent et progressent et prospèrent à Matadi. Et alors, quel sera l'avenir de tous ceux qui sont et qui travaillent pour les comptes de pouvoir au public? 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct.
Wandugu, wakaka, wadada, wapenzi, wamama na wababa, operesheni ya kuandika wachaguzi inakaribia mwisho. Endeni haraka kuziorozesha sawa wachaguzi katika vituo vya seni vya karibu ya makao yenu, mtaani wala mkoani mnamoishi.
Namna gani mnaweza jiorozesha?
Ni kwepesi sana. Inaomba kujielekeza katika kituo cha kujiandikisha cha karibu mkiwa na kitambulisho wala kibarua chochote cha kiserikali kinachoruhusiwa.
Mimi nina kitambulisho cha mpya cha mchaguzi. Mimi nitachagua. Eti nawe?
Rappelons quand même que les opérateurs économiques du Congo central qui avaient salué l'initiative, n'est-ce pas, d'avoir un port privé à Matadi, mais tout en souhaitant que les ports publics de la province, comme nous étions en train de le dire tout à l'heure, ne soient pas abandonnés, ces ports qui connaissent les difficultés de fonctionnement ne soient pas négligés. Alors comment on peut arriver à relancer tout cela? Rappelons quand même que lors de sa visite dans cette province,
Chauvin, c'était l'ancienne ministre de portefeuille, avait estimé qu'il y avait moyen de que le gouvernement disponibilise à près 10 millions de dollars américains pour relancer les activités du port de Matadi, mais aussi hein, l'élargissement du port des Bananas, parce que le gouvernement provincial du Congo central, rappelons, dans son temps, avait pris contact avec une firme suisse pour l'élargissement du port des Bananas, qu'on pouvait attendre la construction de ces ports en eau profonde. Voilà, c'était en 2013 qu'on devait déjà lancer les travaux. Mais alors, comment consolider tout cela? Où l'État peut-il trouver des moyens et des fonds nécessaires pour relancer tous ces ports? C'est, n'est-ce pas, les débats autour de Parole aux auditeurs. Mais on a des petits soucis pour vous joindre tout à l'heure, comme nous avons eu aussi des soucis pour joindre notre ami Fifin du Monique à Luzolo depuis Boma. Et vous aussi qui êtes partout, on a des petits soucis, mais tout à l'heure, je crois, le standard va nous permettre de pouvoir vous joindre. C'est le 09 97 06 49 69. Et nous retournons sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Le projet, comme le disait Maître Gervais tout à l'heure, devait en principe apporter une croissance sous l'égide du secteur privé et le secteur public. C'est alors qu'il faudrait encourager l'investissement des privés dans ses ports, mais aussi consolider les activités du secteur public. Mais quant à lui, il estime que du côté public, il y a plus de négligence, il n'y a pas un plan bien précis et bien travaillé pour pouvoir relancer ses ports. Mais du côté des privés, comme le disait Alain tout à l'heure, la compétitivité pourrait aider ces sociétés publiques, bien sûr, de pouvoir et c'est relancé. Je crois bien avec les lignes, c'est très bon pour le moment. On peut bien s'élancer dans les débats. Nathalie, merci d'être avec nous. Nous avons vu votre commentaire sur la page Facebook. On est avec vous en direct. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, écoutez, moi je suis président d'une ONG qui s'appelle LICORAN, Ligue Congolaise pour le Consensus et la Meilleure Répartition du Revenu National. Et puis, je suis chercheur en économie publique et en finances publiques. En principe, tout ce que nous sommes en train de vivre n'est que le résultat d'une mauvaise conception de l'État. Parce que ceux qui gouvernent ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle l'État. Et ils se comportent comme de personnes prédateurs. Alors qu'en réalité, l'État, quand on parle de l'État, on voit d'abord trois éléments. Donc, il y a les territoires, il y a la population qui y habite, et puis, il y a le pouvoir public. Par pouvoir public, ce n'est pas ça l'État. L'État, c'est l'ensemble de ces trois éléments qu'on peut appeler l'État. Mais aujourd'hui, les politiques ont pris le pouvoir public en otage pour penser que ce sont eux qui sont l'État. Non, l'État, c'est l'ensemble de ces trois éléments qui fait en sorte que l'État puisse, la communauté puisse aller de l'avant vers la croissance et le développement. Et pour rentrer maintenant au vif du sujet qui concerne le port de Matadi et de Boma, l'objectif de ces services publics, c'est quoi? C'est la réalisation de l'intérêt général, du bien-être social de la communauté. Alors, dès lors que l'homme politique n'arrive pas à comprendre le rôle de ce bien public et de ses services publics, nous sommes partis pour la gloire, parce qu'en réalité, le bien public sert à la réalisation de l'intérêt général. C'est anormal qu'un pouvoir public installé par le peuple, qui ensemble constitue l'État, puisse travailler au détriment de la population ou du bien-être ou de l'intérêt général. Et vous allez vous rendre compte, même dans nos lois, l'intérêt général est mis en cause. On n'en parle même pas. Donc, c'est comme si on est fier d'organiser la vie de l'État au profit des intérêts égoïstes et partisans. Ce n'est pas normal. Et en principe, ça, ce n'est qu'une interprétation dans les chefs de ceux qui gouvernent, parce qu'en réalité, ils doivent réajuster leur façon de travailler, parce que l'État est là pour la réalisation de l'intérêt général et non pour autre chose.
Mmh. Mais Nathalie, vous l'avez dit, hein, vous travaillez pour la redistribution équitable du revenu national, mais rappelons quand même que l'État, nous sommes dans un système où le marché est ouvert, l'État peut travailler avec les partenariats publics et privés. Si on peut avoir des opérateurs privés au niveau des ports, c'est pas mal, ils peuvent aider à relancer, mais d'un côté, il ne faudrait pas que le fait qu'on ouvre le marché au privé puisse abandonner complètement le rôle que l'État joue pour les installations publiques comme on est en train de le voir. Alors comment on peut arriver à avancer avec les deux pour que les installations publiques ne disparaissent pas au profit hein, de l'investissement privé?
Là aussi, il y a un certain nombre d'entorses dans les chefs de l'homme politique qui confond plusieurs choses. Par exemple, l'État a trois modes de gestion des services publics. Il y a la régie qui permet à l'État de s'implanter sur l'ensemble du territoire national pour administrer l'État. Il y a l'établissement qui permet à l'État de se comporter comme un opérateur économique qui offre de biens et services moyennant paiement de droits et de taxes. Et il y a la concession où l'État cède aux tiers et même crée ses propres entreprises et les entreprises de... Enfin, les tiers qui créent aussi leurs entreprises. Et en principe, le port doit être géré en établissement public. Parce qu'en réalité, là, c'est l'État public qui doit être là pour contrôler les entrées, les sorties. Parce qu'en réalité, c'est lui, l'État puissant public. Il ne peut pas laisser ça aux tiers. Vous comprenez? Même si il veut gérer avec les tiers, mais le pouvoir régalien doit rester dans le secteur de port, entre les mains de l'État. Mais dès lors que l'État doit céder tout au tiers, alors en quoi il est l'État? Parce qu'en réalité, le pouvoir public doit veiller à ce que la population, le bien-être social soit sécurisé, soit protégé. Et dès lors qu'il ne le fait pas, il faillit à sa mission.
Voilà, il faillit à sa mission. Rappelons quand même, Nathalie, avant de vous libérer, que ce soit le port de Matadi, de Beaumont, c'est comme l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État, quand nous avions eu les débats ici autour des lignes aériennes congolaises, nous avons eu les débats autour de l'Amiba et toutes ces entreprises qui se retrouvent aujourd'hui avec un très lourd passif et ça devient difficile aujourd'hui pour l'État de pouvoir insuffler des capitaux pour remonter ces entreprises avec autant de passifs.
Écoutez, l'État congolais a beaucoup de ressources, beaucoup, je vous dis, qui échappent au compte du trésor à cause de la mauvaise organisation de l'appareil de gestion de l'État. Mmh. Parce qu'en réalité, la loi des finances publiques qui pouvait permettre à l'État de capter l'ensemble des revenus qui sont le sien n'est même pas bien. Notre ONG est en train de prôner pour la réforme d'abord de la loi des finances publiques qui va permettre aux lois sectorielles et domaniales de capter l'ensemble des ressources de l'État. Mais malheureusement, on est mal compris par le pouvoir public parce qu'ils ne veulent pas que l'État puisse avoir l'argent. L'État a beaucoup d'argent et l'État intervient par trois manières. L'intervention fiscale, l'intervention non fiscale et l'intervention parafiscale. C'est dans l'intervention parafiscale que l'État récupère plus de ressources pour réaliser les investissements et les promotions, les développements des secteurs.
Merci.
Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire dans les jours à venir parce qu'en réalité, le pays a besoin d'évoluer.
Merci beaucoup, Nathalie Mbumba, de nous avoir contacté. Merci pour toutes ces précisions. Je crois maintenant, nous avons, après quelques petites difficultés, notre invité en ligne, Fifin Dumoné Kaluzolo, président de l'Union des déclarants en douane de Beaumont, avec qui nous allons partager encore quelques minutes autour de cette problématique des ports de Matadi et de Beaumont. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Fifin Dimoneka Luzolo, vous êtes avec nous en ligne des Beaumont. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, dans quel état se trouve aujourd'hui, que ce soit le port des Beaumont ou de Matadi?
Vous savez, monsieur le journaliste, donc quand on pense restaurant, peut-être qu'aujourd'hui, l'émergence de ports privés tels que MGT favoriserait la disparition de nos ports publics Boma et Matadi. Mais vous savez, l'essentiel, c'est de répondre aux normes internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez, les armateurs jouent sur le contrat à temps et à caillot. Et de ce fait, ils préfèrent décharger dans un port qui serait compétitif. Compétitif, c'est-à-dire un port bien équipé et où on met moins de temps pour toutes les manœuvres, c'est-à-dire des chargements et chargements dans le cas de l'export. Et c'est le cas actuellement avec le MGT Media, qui dispose, bien entendu, qu'on se le dise, de deux grues pouvant supporter plus de 40 tonnes et hors navire. Et pendant que le mât charge, donc entendez, c'est-à-dire la grille du navire est opérationnelle, les deux autres les sont aussi. Et cela favorise les opérations en moins de temps. Mmh. Mais pour le cas de nos ports de Matadi et de Boma, vous savez, monsieur le journaliste, ces deux ports sont hors compétition. En tout cas, j'ai conscience de ce que j'affirme. On ne se voile pas la face pour le dire. Et ces deux ports, c'est pour faute d'inattention du gouvernement. Je dis bien faute d'inattention du gouvernement. Vous savez, la SCTP, bien que commerciale, ne reste l'apanage du gouvernement. La SCTP égorge des agents qualifiés qui ont étudié dans des grandes universités, qui ont tous les atouts pour faire renaître cette société commerciale. Mais la mauvaise foi du gouvernement rend tous ces vaillants agents incapables devant leurs responsabilités. En fait, la SCTP, à mon avis, est malade d'insuffisance matérielle et de la vétusté des appareillages. Mmh. Le port privé de Lédia dispose de dégris capables de soulever plus de 40 tonnes, comme je l'avais dit. Et la SCTP n'a que des grilles pouvant soulever 3 tonnes et spécialisées en tartan chinchard.
Alors, Fifan du Moneka. Voilà, Fifan du Moneka. Alors, est-ce à partir de quel niveau aujourd'hui, vous qui travaillez dans ces domaines, que l'État congolais, comme vous l'avez dit, a présenté cette inattention de ces infrastructures? C'est à partir de quel niveau? Dès lors qu'on sait que ces infrastructures ont été à la base d'autant de recettes, autant de forces pour les trésors publics.
Vous savez, messieurs, je ne voudrais pas aller dans une piste qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire la gestion, le contrôle de la SNTP. Donc, je ne voudrais pas m'apesantir là-dessus. Mais ce que j'affirme est que c'est le gouvernement qui devait prendre ses responsabilités, c'est-à-dire doter la SCTP des capacités en termes de matériel. Et pour que la SCTP, en revanche, puisse présenter un travail là appréciable et qui va attirer beaucoup plus des armateurs, puisque la concurrence doit être là, elle est loyale.
Voilà.
C'est-à-dire, quand le port privé présente les conditions les plus favorables, il faudra qu'en revanche le port public en soit aussi, et cela fera qu'il y ait beaucoup plus d'importateurs. Mais actuellement, un armateur averti donc voudrait aller dans un port privé que dans
les ports publics. Voilà. On vous garde en ligne, Fifin du Moneka. On revient ici à Kinshasa. Alain, merci d'être avec nous. Vous aviez dit tout à l'heure que la florescence des ports privés, c'est au contraire à encourager. Mais comment est-ce que l'État, parce que vous avez suivi, les gens reviennent sur le gouvernement pour accuser les gouvernements, comment le même État qui estime qu'on peut encourager l'investissement privé ne puisse pas avoir les capacités de mettre en place de mécanismes pour rendre ces sociétés publiques et compétitives? Alain, bonjour et bienvenue dans cette échange.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Bon, je crois que c'est un débat qui a toujours existé. nous avons eu ce genre de débat lorsqu'on avait ouvert le marché de la communication. Certaines personnes pensaient qu'on devrait plutôt soutenir l'OCPT et ne pas laisser libre action à des entreprises privées en termes de communication avec l'avènement des GSM et tout ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même si on avait soutenu l'OCPT, on n'allait pas avoir le même service qu'aujourd'hui. La privatisation, la libéralisation du marché permet à ce qu'il y ait la concurrence, qu'on vient de le dire mon prédécesseur. Et cela aussi impose une certaine discipline en termes de prestations. Parce que ce qui est vrai, les sociétés de l'État ne sont pas vraiment compétitives par le simple fait que ils considèrent que dans un système monopolistique, ils peuvent s'imposer même si la prestation n'est pas bonne ou ne correspond pas aux défis. L'essentiel, c'est qu'ils ont le monopole et tout le monde est censé passer par eux. Et pourtant, il y a des plaintes, il y a des gens qui se plaignent chaque jour. Qu'est-ce qui a fait que les gens préfèrent aller vers Congo-Brazzaville que passer par le port de Matadi? C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte de lenteur, il y a une sorte de tracasserie qui mettent en mal leurs affaires. C'est comme ça qu'ils préfèrent aller par des raccourcis en empruntant le port de Brazza, de Congo, tout simplement parce que notre service n'est pas assez compétitif. Aujourd'hui qu'il y a les initiatives privées, moi j'estime de mon point de vue que nous devons être honnêtes. On doit encourager l'initiative privée pour renforcer la capacité de la structure, mais aussi faire en sorte que notre structure nationale soit aussi compétitive. Et ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est adapter l'organisation, mais aussi la logistique par rapport aux défis. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire que la présence des privés met en mal le fonctionnement. Non, c'est plutôt l'incapacité de ces genres d'entreprises à faire face à la concurrence. Mmh. Alors, lorsque les gens viennent donner l'impression comme si le fait qu'il y a libéralisation de ces secteurs, que cela va nécessairement entamer la profitabilité de l'État, c'est faux. Au contraire, ça va plutôt renforcer parce que l'État a maintenant plusieurs sources de financement. Parce que les gens qui travaillent dans le privé, ils payent aussi quelque chose à l'État. Mais aussi, l'État a aussi le moyen de faire en sorte que sa structure puisse continuer. Mais ce qui est important, ça exige à l'État de renforcer aussi sa capacité de contrôle.
Voilà. Mais est-ce que, Alain, parce que vous avez évoqué... Oui. Alain, tout à l'heure, vous avez suivi Nathalie Sumbumba qui estimait, lui, que le problème de cette structure, de ces entreprises, de l'État, c'est un problème d'abord qui relève de la conception politique même. Lui, il estime que ces entreprises qui connaissent des difficultés aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens compétents pour pouvoir les gérer, mais c'est parce que les interférences politiques ont détruit complètement la vision même et la survie de ces entreprises. Est-ce qu'on peut dire que ces deux ports, que ce soit Matadi et Boma, sont aussi victimes de l'interférence politique, de la mauvaise conception de l'homme politique sur la gestion des entreprises publiques?
Bon, malheureusement, l'intervenant a raison. Parce que c'est vrai, nous autres qui avons fréquenté ces ports, nous voyons comment il y a des interférences. Nous prenons le cas, il y a des enlèvements d'urgence, des gens qui viennent au nom des autorités pour faire sortir les choses, et ça passe au vu aussi de tout le monde. Tout le monde constate qu'il y a un désordre organisé au niveau de ces ports. Il y a des gens qui font près d'un mois pour dédouaner un véhicule. Donc ce sont des faits qui poussent les autres aussi à préférer le privé que l'État. Mais maintenant, ce qui est aussi vrai, notre État a l'obligation d'avoir un service dans ces secteurs. Si on peut déjà envisager de construire le port des bananes, ça va nous renforcer en termes de la présence de l'État, mais aussi faire en sorte que le privé qui évolue dans ces secteurs ne soit pas isolé. Ils doivent être accompagnés par l'administration. Je prends les cas. Lorsque vous laissez la latitude au privé d'évoluer dans ces secteurs, alors que l'État a d'autres visées au-delà de l'aspect pécunier, il y a aussi l'aspect sécuritaire. On doit avoir les services de l'État, et l'État doit aussi savoir son quote-part dans tout ce qui va, dans tout ce qui s'est fait, pour que nous arrivions à renflouer nos caisses
et faire en sorte que l'État puisse en bénéficier. C'est vrai que le souci est de préserver les emplois qui ont été créés dans ces genres de structures, mais aussi il faudrait voir l'élan que cela peut donner dans la structure économique, dès lors que plus il y a des importations et des exportations qui tiennent compte de la durée des gens qui prestent dans ces secteurs, eh ben, ça va faciliter à ce qu'il y ait plus d'échanges entre nous et l'extérieur, et cela va faire en sorte qu'on joue plus sur la vitesse. Lorsqu'on joue sur la vitesse, naturellement, les recettes aussi vont s'accroître.
Merci.
Moi, j'estime, de mon point de vue, c'est un faux débat de critiquer, de condamner l'initiative privée. Prenons le cas de M. Lédia. Lédia, c'est un Congolais. Il n'est pas étranger, c'est un Congolais qui a prouvé de quoi il était capable dans ce secteur. Il a démontré que l'État congolais n'était pas si en dehors de ce système. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, la notoriété de l'État commence aussi à en bénéficier, tout simplement parce qu'il est crédible. Alors pourquoi ne pas encourager ce genre d'initiatives au lieu de le combattre? Nous préférons plutôt qu'on les encourage pour que nous arrivions à briser cette chaîne et à faire en sorte que tout le monde soit gagnant.
Merci beaucoup Alain. Il faut encourager l'initiative privée comme celle qui est au port de Matadi, qui permet aujourd'hui, comme le disait notre invité, que le travail est impeccable. Hein. C'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent là où le travail peut bien se faire, plutôt que dans les installations publiques qui sont presque en désuétude. Merci beaucoup. Et Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierre Lamengi et à tous les auditeurs de la radio Capi, merci de m'avoir honoré et m'accorder la parole. Merci.
On vous écoute.
Oui, j'ai exploité Alain Molo Duadi depuis hier plus de 5 fois sur son message. J'ai pu librement, attentivement les sujets de cette émission et mon commentaire sur Facebook s'intitulait ainsi. Nous avons beaucoup de sociétés qui ont cédé pour les entrepreneurs privés. Avons-nous un résultat escompté? Sans doute que non. Au titre d'exemple, nous avons la Gécamine qui a pu céder à des multiples mining. Je vous jure que la société actuelle que nous sommes, nous ne voyons rien du progrès si ces ports vont être cédés à des entrepreneurs privés. Le problème, c'est quoi? C'est juste quand on a du progrès à un certain temps, il y a un relâchement. Nous avons déjà des sociétés pour l'État. Mais pourquoi l'État relâche à un certain moment? Le problème que nous avons à RDC, c'est quoi? Nous avons la SNCC. Le carburant est gratuit. Les locomotives sont gratuites. Mais on espère qu'il y a 70 mois, 90 mois, 60 mois d'impayement. Disons, par exemple, si on va laisser cette société à une autre personne qui va travailler comme un privé, est-ce que ça va changer la situation? Je vous dis que sans doute que non. L'État actuel que nous avons, il a fallu assez qu'on cherche d'abord à renouveler. Si on va chercher, par exemple, les ports de Banana, si on va renouveler, construire un port à un eau profonde, est-ce que ça sera la solution? Et pourtant, les ports de Boma, jusque-là, les consommateurs que nous sommes, nous n'en bénéficions pas rien comme les services de qualité. Je vous dis que l'État actuel que nous avons, je vous cite un peu certaines sociétés qui sont tombées en faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a la légèreté de travailler et la légèreté du ministre des Industries. Nous avons la Gécamine, nous avons la SNCC, nous avons la Sodimico, nous avons le MIBA et nous avons la Sencamine. Est-ce qu'aujourd'hui on parle encore de Sencamine? Sans doute que non. Et aujourd'hui, si on va encore délibéraliser, par exemple, la MIBA, disons qu'on est en train d'enfoncer ce pays dans une fossée très profonde que personne ne saurait jamais se relever. Pour bien tenir compte et se relever, relever aussi ces défis, il a fallu assez que l'État, notre gouvernement, se prenne en charge. Que ce soit le ministre de l'Industrie, le ministre des infrastructures, prenons d'abord en compte la conscience propre pour sécuriser ces pays. Quand l'État du Katanga, on disait Kolwezi ya Lisano. Qu'est-ce qu'on entendait par Kolwezi ya Lisano? C'est parce que la Gécamine était toute haute. Les travailleurs devaient quitter Lubumbashi pour travailler à Kolwezi et retourner ici. Sencamine, Kilomoto aujourd'hui, on n'en parle même pas. Nous avons encore Simankat ici. On ne voit rien. Alors, il a fallu que l'État prenne conscience de ceux qui sont
la misère de ce peuple. Je vous dis que nous vivons dans un pays où nous avons un super président parmi le président de l'Afrique centrale. Le président de la République est tout déçu par ce que lui-même ou ce que la loi a nommé comme dirigeant. C'est ce qui nous rend un peu ça. Nous avons la défaillance. Il a fallu assez comprendre la responsabilité de ce qui concerne nos industries et nos sociétés, pourvu que la société, le peuple autochtone, que nous puissions nous retrouver.
Merci beaucoup, Ismaël. Vous estimez que prise dans la globalité, les entreprises du portefeuille de l'État ne peuvent pas être laissées en train de mourir, si on peut utiliser les termes. La SNCC se meurt ou elle est morte il y a longtemps. La MIBA, on n'en parle pas. La Sengamine, voilà les tableaux qui représentent aujourd'hui ces entreprises qui ont des milliers de personnes, de la main d'œuvre, ces entreprises qui ont besoin de travailler parce que la population s'y retrouve. Et vous estimez que la solution, quand bien même on pourrait donner au privé, mais dès lors que la majeure partie de la population ne se retrouve pas dans l'ensemble de ces entreprises, ça sera très très difficile aujourd'hui. Merci beaucoup Ismaël de Lubumbashi. Nous retournons à Boma avec vous, Fifin du Monica, où au-delà du fait que les gens estiment que l'État doit prendre ses responsabilités, est-ce qu'au niveau des consommateurs aujourd'hui, pensez-vous que le travail des privés, il répond vraiment aux besoins réels à un coût aussi acceptable par rapport à ceux qui ont besoin des douaniers, ceux qui ont besoin d'accoster, vous qui travaillez sur place dans les secteurs fifins?
Vous savez, monsieur le journaliste, d'emblée, je répondrai par l'affirmatif. Il est vrai que le port privé que l'EDIA, donc le port MG, était présente les conditions les plus favorables pour le travail. Vous savez, notre pays a émis beaucoup de vœux, c'est-à-dire de voir les importateurs venir en masse. Donc il a mis en place un comité de pilotage qui avait pour objectif la création d'un environnement propice en éliminant le coût, la durée et les tracasseries. Mais au niveau de MGT, mais la durée, donc il est vraiment concurrentiel. Donc rassurez-vous, après le paiement d'une facture, à la minute qui suit, vous avez votre conteneur, mais c'est ce qui est contraire dans le port public. Donc vous payez la facturation, donc il faudra maintenant pour le chargement du conteneur c'est taper la tête. Parfois c'est le pneu de l'engin qui est crevé. Et pour la réparation, il faudra prendre 2-3 jours. Parfois, il y a manque du carburant. Donc, c'est-à-dire des raisons là très primitives qui font que le port puisse le port public puisse s'écrouler. Et même en termes de frais, parlons-en. Vous savez, plus il y a des tracasseries, plus il y a des frais à payer. Mais au port des médias, au fait, je ne suis pas en train de faire leur publicité, mais je dis ce que je ressens, puisque je suis opérationnel, je suis un usager de la douane. Au niveau des médias, vous payez votre facturation, on vous sert, mais ce n'est pas à Matadi comme à Boma. Vous payez, il faudra passer par des tables là inutiles, un travail de trop qui exige beaucoup plus d'acrobatie et cela demande beaucoup plus de frais. Donc je me lie à mes deux prédécesseurs. Donc la concurrence doit être là, question de revaloriser nos ports publics, question aussi de stimuler le gouvernement pour qu'ils puissent en revanche leur donner le moyen possible. Puisque comme je l'ai dit, donc il ne faudra pas aller chercher le miracle ailleurs. Il faudra que le gouvernement congolais puisse pour réserver une attention particulière pour faire renaître ce deux ports.
Merci.
Donc
Voilà.
Voilà, on vous garde pour revenir à vous tout à l'heure. Et nous avons Isaac qui est à Bukavu et Jean-Hubert à Chikapa. Isaac, merci de nous avoir écrit sur la page Facebook. Bonjour Isaac.
Et bonjour.
Non, on vous écoute. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est la part aujourd'hui de la responsabilité de l'État congolais pour arriver à remonter hein, ces ports et leur permettre de pouvoir faire face, bien sûr, à la concurrence des privés?
Pour ma part, j'estime que la privatisation n'est pas la solution au problème de la maximisation des recettes de l'État. Le problème, c'est l'organisation, tout simplement. Et puis, j'ai l'impression que l'homme politique congolais n'a pas de sens du bien commun. Ceux qui sont au pouvoir, on a l'impression qu'ils cherchent à se partager le pays avant que leur régime puisse passer. Ici, chez nous, à Bukavu, l'entrepôt public a été abandonné depuis qu'il a été détruit par l'ouragan. Actuellement, ce sont les entrepôts privés qui fonctionnent. Et bien sûr, c'est si réellement... Là, il y a des recettes qui entrent dans le trésor public de l'État. L'entrepôt qui a été abandonné, ça a été vendu à une université. C'est l'affiche de l'Université libre de Grand Lac qui est là actuellement. Et il y a aussi les parcelles du domaine de la SNCC qui ont été vendues. Et d'autres parcelles de l'État et des maisons de l'État ont été vendues aux particuliers. Et les hommes d'affaires, pour la plupart, sont des prêtements. Les vrais hommes d'affaires se cachent dans l'ombre. Et peut-être qu'ils sont au sommet de l'État. Et une situation comme ça ne peut pas permettre l'État d'évoluer. La seule solution, c'est que l'État puisse s'organiser et que les élus du peuple surtout puissent ouvrir l'œil, qu'ils puissent sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés. Parce que je perçois cela comme une spoliation, une façon de tuer le pays.
Voilà, merci beaucoup Isaac. Cette inquiétude, elle est globale, et là vous dénoncez le fait même que le patrimoine immobilier de l'État soit spolié, les parcelles, les terrains qui appartiennent à la SNCC soient vendus, et dans ces conditions, comment voulez-vous résoudre le problème de la maximisation des recettes? Et même quand on pourra penser à la libéralisation, à la privatisation, cela ne va pas résoudre le problème de maximisation des recettes aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, l'entrepôt public à Bukavu a été cédé, il y a pour le moment des entrepôts privés, mais il reste à savoir si en réalité l'exploitation privée permet de renflouer les caisses de l'État. Merci beaucoup Isaac. Jean-Hubert, vous êtes à Chikapa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Hubert, je suis vraiment à Chikapa. Je voudrais un peu intervenir en ce qui concerne la société minière de Bakwanga et la Sengamine. Ce sont des grandes entreprises que l'État congolais puisse vraiment penser à ça, parce que ça contribue totalement au développement de la province du Kasaï en général et la province du Kasaï oriental en particulier.
Merci, merci beaucoup. Vous avez souhaité dans ces débats revenir sur la question de la MIBA ainsi que la Sengamine. Mais je rappelle que l'année passée, hein, même je crois bien, oui, l'année passée, on a eu beaucoup de débats autour de cette question de la relance de la MIBA, le passif. Hein, on a eu des débats, il fallait que l'État puisse débourser l'argent pour pouvoir permettre à ce que cette société soit relancée. Et vous estimez que si ce genre de société soit relancée, ça puisse permettre de résoudre le problème des crises économiques et sociales dans l'espace du Kasaï. Merci beaucoup Jean-Hubert de Chikapa. Nous revenons à vous Fifin Dimonica. Vous avez évoqué tout à l'heure le matériel, il n'y a pas de tracasserie dans les ports privés. Mais une autre question, c'est celle qui est de notre ami Isaac tout à l'heure, c'est de savoir si exactement, parce que les consommateurs sont contents, les armateurs, oui, mais il reste aussi à savoir si cette exploitation permet aujourd'hui quand même de résoudre le problème de renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est une autre paire de manches, comme s'inquiétait tout à l'heure Isaac de Bukavu.
Vous savez, monsieur le journaliste, vous l'avez bien dit, la maximisation de recettes est demandée à tout le monde. Et au-delà de l'équipement que nous déplorons à nos ports, la maximisation aussi c'est au niveau des autorités, hein, puisque vous savez, mon prédécesseur l'a bien dit, nous sommes dans des ports publics Et à tout moment, nous nous gérons parfois les dossiers le plus sensibles. Et je n'ai pas peur de le dire. Vous voyez, les dossiers qui sont parrainés, si, bon, passez-moi le terme, par les autorités politico-administratives sont les bien accueillis au niveau du port. C'est-à-dire il y a des autorités qui utilisent leur peau là et qui échappent à certains frais qui pourraient, dans la mesure du possible, renflouer les caisses de l'État. Mm-hmm. Messieurs, nous pouvons tenter une expérience où vous avez la même marchandise et qui arrive à des noms différents, c'est-à-dire l'un à votre nom et l'autre au nom d'une autorité. Et vous allez comprendre que c'est vous qui allez payer le plus cher possible. Et l'autorité, si bien que elle a toutes les capacités de pouvoir aussi s'acquitter de ses droits, mais donc elle cherchera tout par le moyen de tourner soit des exonérations quoi, qui n'ont pas de base juridique pour faire sortir sa marchandise. Et pour elle, il n'y a pas de procès par après. Donc moi, je crois que le problème de la maximisation des recettes doit être d'abord de l'éveil de la conscience civique.
Et d'ailleurs, c'est à cause de ces exonérations sans base juridique, à cause de tous ces trafics d'influence, que c'est exactement ces installations sont en faillite. Mais permettez que nous puissions avoir le dernier auditeur. On va revenir à vous pour la conclusion. Malonga, vous êtes à Bandundu. Merci. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Ok, merci beaucoup. En tout cas, mes compatriotes ont déjà tout dit. Ce que moi j'ai fait clôturer Pérou. En tout cas, ce sont les agents, les personnels qui sont là au port et qui sont chargés maintenant de maintenir vraiment la sécurité économique, sociale, tout ça du pays, puisque c'est l'entrée et la sortie du pays. Qu'ils soient vraiment bien, bien instruits, bien suivis de l'éthique. Vous voyez que s'ils prennent en jeu ou bien en blague ce qu'ils sont en train de faire là-bas, vous verrez que c'est la pérille du pays. D'où, pour le conseil, tout ce que nos compatriotes viennent de commenter, tout ce que vous aussi, les journalistes, vous commentez, en tout cas, c'est fondamental.
Ce merci beaucoup.
À exécuter et à nous rendre de bons services pour que nous ayons vraiment de bons rendements dans notre
Merci beaucoup. Vous estimez qu'il revient d'abord à la responsabilité des agents, de ceux qui travaillent, mais ils travaillent dans un environnement, il faut mettre ces agents dans un environnement qui leur permette d'avoir ces résultats, d'accomplir leur mission comme il faut. Mais quand on se retrouve avec des installations portuaires ou soit ce qui revient à la responsabilité du pouvoir public est presque abandonné, quand il n'y a pas d'infrastructures, quand il n'y a pas de matériel, ça sera difficile pour eux aussi de pouvoir travailler comme il faut. C'est ainsi que ça devient un peu, si on peut dire, une situation de sauve qui peut. Alors, dans ces conditions, il sera peut-être très difficile pour toutes ces personnes de rendre un service louable comme vous le souhaitez. Alors, on revient à vous, Fifin Dimonekene, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir après cet échange fructueux avec l'ensemble des compatriotes?
On peut retenir que il y a moyen de sauver la FTP. On peut retenir que l'émergence de ports privés est à féliciter, puisque elle ne va pas déconsidérer le port public. Donc que le gouvernement puisse avoir une attention particulière en équipant compétitivement le port public pour qu'il y ait la concurrence loyale et que nous puissions attirer beaucoup plus de des investisseurs. Voilà.
Merci beaucoup, Fifin Dimoné Kaluzolo, d'avoir accepté notre invitation. Vous intervenez des Boma. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union de déclarants en douane des Boma. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets, mais les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Merci, monsieur les journalistes.
Merci à toute l'équipe de production des Paroles aux auditeurs. Cette semaine, c'était André Mungu qui était à la mise en onde. Nico Kalambay était à la réalisation. On va se retrouver le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Nous disons merci à Martin Sebujang qui a supervisé ces magazines que Pierrot et la Meiji vous a présenté. L'émission est sur www.radiocapi.net. Il nous reste pour le moment à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci, au revoir.